J'ai choisi d'interrompre notre série sur les actes par des messages qui peuvent vous être utiles en fait. Parce qu'il y a des os dans la Bible. Vous avez probablement trouvé des passages dans les Écritures qui vous choquent. Eh bien ce matin, c'est un de ces passages qu'on va aborder. Mais avant, j'aimerais juste vous raconter une anecdote qui est vraie, qui s'est passée en mars 2023 à Lyon. Une propriétaire a été condamnée à verser 2000 euros de dommages et intérêts à deux squatteurs qui occupaient illégalement son immeuble depuis juillet 2021. Donc vous voyez, 2 ans de squat. Ces derniers avaient saisi la justice après que la propriétaire, donc les squatteurs, hein, il faut se mettre dans le contexte là, vous cassez la serrure d'une maison, vous la changez, et vous squattez dedans. Donc le propriétaire ne peut plus rentrer chez lui. Et puis, il se passe l'inverse. Mais ça se passe en hiver. Les propriétaires décident de revenir chez eux. Et donc, ils font sauter la porte. Ils changent le verrou et ils rentrent chez eux. D'accord. Ça vous paraît logique jusque-là? Sauf que les squatteurs ont porté plainte. Parce qu'ils ont été mis dehors pendant l'hiver. Avant le 31 mars, c'est la date qui est fixée. On n'a pas le droit d'expulser des gens, hein, d'expulser des gens, des locataires. Si vous êtes propriétaire, vous avez des locataires chez vous, vous n'avez pas le droit de les expulser avant le 31 mars. Donc là, on a des squatteurs, ces gens qui ne payent pas, qui ont cassé, on est d'accord. Hein. Eh bien, cette dame a été condamnée à 2000 euros d'amende parce qu'elle n'a pas prévenu la justice et le tribunal a jugé son action comme une violation de domicile. Elle s'est violée son propre domicile. Violation de domicile. Et estimant qu'elle pouvait, elle n'avait pas procédé à une expulsion et qu'elle n'avait pas le droit de le faire sans décision judiciaire. Et voilà. Est-ce que vous trouvez ça juste? Moi, ça me met en rogne, ce genre de situation. Ça me fait sortir de mes gonds. Je trouve ça révoltant. Et j'ai qu'une envie, vous savez quoi? C'est que les squatteurs, ils viennent prendre possession de celui qui a pondu la loi. Et là, on verra s'il la trouve juste, la loi qu'il a promulguée. Parce que ça me met profondément en colère. Vous avez l'air vraiment passible. Vous êtes cool. Il n'y a que moi qui suis comme ça? Non, il y a quand même une ou deux têtes qui bougent. En fait, je ressens de la colère face à ces magistrats qui n'ont pas l'air de vivre sur la même planète que nous. Hein, ils pondent des lois, mais a priori, ça ne les touche pas trop. Parce que... Et là, je me dis, ça serait quand même bien s'ils pouvaient vivre la même chose, non? Vous ne trouvez pas? Alors, c'en est une chose d'être en colère contre une institution lorsqu'on constate une injustice criante, mais c'en est une autre d'être en colère contre Dieu parce qu'on ne comprend pas pourquoi il agit d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de colère. Hein. Vous vivez une situation injuste et vous vous tournez vers Dieu et dites « Mais pourquoi ?» Hein. Ça ne vous arrive jamais. Ça ne vous est jamais arrivé. Ce matin, on va lire une histoire qui a choqué le roi David. Celui, il l'a vécu de près. Ça a choqué le roi David et c'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Dieu est-il injuste en foudroyant un innocent ?» Parce que c'est comme ça qu'on perçoit la situation. Et on va le lire tout de suite et vous allez immédiatement me dire ce que vous ressentez. Surtout ceux qui n'ont jamais lu le texte, d'accord ? Et ceux qui ne l'ont jamais étudié. Parce que moi, chaque fois que j'étudiais, que je lisais, parce que je lisais plusieurs fois, hein, tous les ans à peu près, je retombais sur ces textes et à chaque fois, j'étais choqué. Allez, lisons ensemble. 9 versets exactement. Ah, je suis pas en lien avec toi. Voilà, super. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se leva et partit de Baal et Juda pour en faire monter l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab, qui est sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Ahio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel sur toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, sur des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nakhon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs avaient glissé. Et là, voilà ce qui se passe. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa. Là, à cause de ce sacrilège. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et l'on a appelé ce lieu Pérets-Uza jusqu'à aujourd'hui. On arrête la lecture de la parole de Dieu, et là je veux juste capter vos émotions. Qui ressent de la colère comme David ? Soyez honnête. Allez, il n'y a pas de notes, rassurez-vous, vous êtes plusieurs. D'accord. Je pense que c'est logique, parce qu'on se projette dans la situation. Le gars, il est à côté du convoi, au milieu de tous les autres. Il y a des bœufs qui tirent l'arche de l'Éternel. Puis à un moment donné, les bœufs glissent, le char commence à osciller, il voit l'arche qui va tomber, son réflexe, et il va saisir l'arche à deux mains. Il retire l'arche pour pas qu'elle tombe. Sauf que, boum, la foudre lui tombe dessus, et là la Bible est très claire, c'est bien Dieu qui frappe, c'est pas la foudre qui est tombée par hasard. Hein. Il n'y avait pas d'orage ce jour-là. Enfin, le texte ne le dit pas, mais le texte est suffisamment clair pour dire que la foudre est tombée sur lui, mais que c'est l'Éternel qui a provoqué sa mort. Pam ! Foudroyé, comme ça. C'est choquant. Honnêtement, la première fois que j'ai lu ce texte, et la deuxième fois, et la troisième fois, chaque fois, je suis choqué quand je lis ce texte. Jusqu'au jour où je me suis dit... Parce que vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible. Eh bien, il faut passer. Quand c'est comme ça, vous dites, ok, surtout, évitons d'être en colère et de garder cette colère contre Dieu. Sachez qu'on n'est pas parfait, que notre interprétation n'est jamais parfaite. On ne comprend pas toujours. Et c'est là où il faut prendre le temps. Et un jour, je me suis dit, allez, Franck, il faut que tu y ailles, tu vas aller chercher pourquoi. Essaye de comprendre. Et en fait, les réponses sont déjà là. Hein. Elles sont dans la Bible, je n'ai rien inventé. Et vous allez voir pourquoi. Est-ce que ça vous intéresse ? Moi, j'ai trouvé des réponses, satisfaisantes à mes questions. Si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas un problème, il y a une machine à café juste là-bas. Alors, je ne peux pas vraiment dire que j'étais en colère quand je lisais ce texte, mais c'est vraiment de l'incompréhension. Et derrière le « Pourquoi Seigneur ?», il y a d'autres questions qui viennent. Pourquoi cet homme est-il jugé si sévèrement alors que d'autres font des choses largement pires et ne sont pas sanctionnés ? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez en deuxième question, directe après la première ? Pourquoi Seigneur ? N'est-ce pas ? Ouais, franchement, on voit des situations largement pires dans la Bible et il n'y a pas de colère qui tombe. Et finalement, on se projette, on se dit, mais attends, et c'est pour ça qu'on trouve ça injuste. Parce qu'on se dit, waouh, si moi je subissais la foudre pour une petite coquille, pour quelque chose de bien intentionné, peut-être maladroitement fait, est-ce que je peux subir ça ? Est-ce que c'est pas un peu ça ? Hein ? On n'aimerait pas subir ce genre de situation parce qu'on se projette, en fait, inévitablement. On regarde le texte, on dit « Ah, mais moi, j'aurais fait pareil, j'aurais retenu. » Et c'est un acte de bienfaisance. C'est un réflexe. Et donc, voilà. La question de savoir, c'est est-ce que les bonnes intentions sont suffisantes ? Est-ce que Uza était à sa place ? Est-ce qu'il mérite un jugement si sévère ? Je ne vais pas répondre tout de suite, mais j'aimerais juste vous donner un résumé si vous devez retenir une idée essentielle de ce texte. Alors, je vous ai mis sous deux formes. La première, les bonnes intentions ne suffisent pas. La sainteté de Dieu exige l'obéissance. Et le deuxième, qui dit à peu près la même chose, mais d'une manière différente, vous retenez la phrase que vous voulez. Les deux sont valables. Dieu ne cherche pas seulement des cœurs sincères, mais des cœurs obéissants. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée essentielle. Maintenant, on va rentrer dans le texte pour essayer de comprendre les motivations de Dieu, parce que c'est Dieu ici qui agit. Donc on doit comprendre pourquoi Dieu agit comme ça. Et la première chose, c'est qu'on est dans le cadre d'une mission exceptionnelle ici. On est au tout début du règne de David. Il devient roi au chapitre 2, donc c'est dans 2 Samuel. Et entre le chapitre 2 et le chapitre 6, on assiste à des règlements de compte sanglants entre les anciens soldats de Saül et ceux du roi David. Il y a vraiment une grosse rivalité qui est là. Quelques têtes vont tomber inutilement parce que David ne souhaitait pas poursuivre ses assaillants. Il voulait la paix, David. Et donc, il y a des têtes qui vont tomber. L'excès de zèle et la soif de vengeance de quelques soldats vont amener David à se séparer de certains collaborateurs. Lui aussi va raccourcir d'une tête ses généraux pour leur montrer qu'il ne fallait pas toucher à loin de l'Éternel. Certains sont venus en disant « Oui, moi j'ai participé contre Saül, j'ai participé à la mort de Saül ou à ses fils. » Il valait mieux pas dire ça à David. Parce que même si Saül était son ennemi, ça restait loin, L-O-I-N-T, L'O-I-N-T, loin, quelqu'un qui est loin de l'Éternel. Et donc, David ne supportait pas qu'on touche à loin de l'Éternel. Et donc, il a fait exécuter tous ces gens qui pensaient bien faire en venant vers lui. Une fois que les querelles intestines sont dissipées autour de lui, David va se consacrer à nouveau à son ministère. Donc là, il va changer de casquette. Il passe d'une casquette verte militaire à une casquette dorée de roi. Et donc, il va maintenant s'occuper de son nouveau titre, comme il est devenu roi. Dans le chapitre 5, les tribus d'Israël reconnaissent enfin David comme leur roi. Et là, il va être oint sur tout Israël et il est à peu près à l'âge de 30 ans. Il va faire la conquête de Jérusalem, qui avait été laissé entre les mains de l'ennemi, et il va en faire la capitale. Là, il va bâtir la maison royale avec l'aide du roi de Tyr. Il va remporter 2 victoires successives contre les Philistins parce qu'il a demandé la direction à Dieu. D'accord ? Donc, David avait un cœur bien disposé et il cherchait la direction auprès de Dieu. Et donc, la première décision officielle dont il va se charger, c'est de rapatrier l'arche de l'Éternel. Et c'était une décision importante parce que c'était quelque chose et donc une mission exceptionnelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que l'arche, c'était pas n'importe quel objet. L'arche, c'était la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et vous savez quoi ? L'arche, pendant 20 ans, elle a été mise de côté. Elle était plus au milieu d'Israël. Terrible. 20 ans plus tôt, avant même que le peuple ait un roi, donc c'était sous le juge Élie, l'arche avait été capturée par les Philistins. C'est dans 1 Samuel. Et les Israélites l'avaient emmenée au combat comme un talisman. Ils espéraient forcer la victoire. Mais Dieu ne s'est pas laissé manipuler. Et Israël, ce jour-là, va être battu et l'arche va être prise. Donc c'est 1 Samuel 4. Et c'est dans cette période que les fils de Samuel vont mourir. Et voyant que ses fils sont morts, Élie tombe à la renverse et se brise la nuque. Et le prophète Élie, qui était juge aussi, va mourir. Ça, c'est juste avant Saül. Donc vous voyez ce qui se passe. Et là, l'arche va être déposée. Alors donc, avant d'être déposée, les Philistins vont la prendre avec eux, parce que c'est ce qu'on faisait pendant la guerre. C'était quelque part comment on appelle ça ? Un trophée, j'ai perdu le nom, bref, ça me reviendra. En tout cas, c'était ce qu'on faisait, on prenait les richesses du pays et on les amenait chez soi. Il se trouve que l'arche était en or, tout en or, ça brillait, c'était étincelant. Et donc, ils ramènent avec eux en pensant qu'ils avaient fait une bonne affaire. Sauf que ils la mettent à côté du roi, enfin pas du roi, mais à côté d'une statue de Dagon, c'était leur dieu de l'époque. La nuit se passe, le matin il se lève, boum, Dagon était tombé par terre, la tête face contre terre. Ils relèvent Dagon et ils se disent, qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu de tremblement de terre. La nuit d'après, boum, Dagon retombe la face contre terre. Et là ils disent, ouh, il y a un truc bizarre. Et puis, l'arche étant toujours au milieu, en fait, ils vont avoir des fléaux successifs. Alors, la Bible, elle dit... des ulcères ou des hémorroïdes, comme vous voulez. Mais bon, bref, tout le peuple va être atteint comme ça. Et ils ont fait le lien, les Philistins, ils n'étaient pas bêtes. Ils ont dit, oula, depuis qu'on a pris cette arche, il y a des trucs qui se passent chez nous, on va s'en séparer. Et alors, ce qu'ils font, ils prennent l'arche, ils la déposent sur un char, ils mettent deux bœufs et personne dessus, parce qu'ils se sont dit... Ça craint pour celui qui va être sur le char. Et donc, il tape sur les bœufs et il le lâche dans la nature. Et donc, l'arche va être abandonnée au milieu du désert, comme ça. Elle va être récupérée par cet homme, Abinadab, d'accord ? Elle va être entreposée à Kiriat Jéraïm. Il faut relire 1 Samuel 5 et 6, dans la maison donc de ce Abinadab. Et donc, entre-temps, Saül va être nommé roi. Et donc, pendant une vingtaine d'années, le roi Saül va diriger le pays, mais n'ira jamais chercher l'arche. Il ne consulte pas l'Éternel. Ça ne l'intéresse pas, en fait. Et quelle est la première chose que va faire David ? Lui, c'est ça qui l'intéresse. Il veut que l'Éternel soit au milieu du peuple, et il sait que l'Éternel communique sa volonté quant aux sacrificateurs quand ils sont devant l'arche, en fait. Et donc, c'est essentiel pour David. Mais vous voyez, ce n'était pas du tout le souci de Saül. Donc, 20 ans sans rien, c'est long. Et donc là, c'est pour ça que c'est une mission exceptionnelle. On va rapatrier l'arche. Et donc, ils sont hyper enthousiastes. David dit, ça y est, c'est moi le roi. Première bonne chose à mettre en place, premier décret. Hein. Imaginez les présidents de la République, là, pas forcément chez nous, mais de l'autre côté de l'Atlantique. Ça fait à peu près une centaine de jours qu'ils sont là. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au début du mandat. Parce qu'on veut justifier ce qu'on a fait pendant les élections. On avait avancé des choses. Et ben là, il fait exactement la même chose. J'ai dit, moi, je veux marquer mon mandat. Et donc, c'est ce que je vais faire au début. On va replacer l'Éternel au milieu du village. Et donc, ils vont chercher, plein d'enthousiasme, l'arche. Donc, j'ai dit, une mission exceptionnelle. Mais... ce sera aussi une mission avec un convoi exceptionnel. Et donc, David, il organise ce convoi. Si vous vous souvenez ce qu'on a lu juste au début, c'est dans ces 8 versets. Combien il y avait de soldats qui sont allés chercher l'arche ? Combien de gens ont été mobilisés ? Ah, vous avez oublié, hein ? 30 000. Combien ça pèse un coffre comme ça, à votre avis ? Combien ça mesure ? Ah, c'est difficile, hein ? On va regarder dans le détail. Mais 30 000, ça fait beaucoup, hein ? Vous savez combien il fallait d'hommes pour porter l'arche ? 4. 30 000, 4. Pour ça, je dis convoi exceptionnel, hein ? Si, je ne sais pas si on a une petite réunion à 4 et qu'on convoite 30 000 personnes... On va dire que le marathon de Genève qui a eu lieu aujourd'hui, là, c'est petit à côté. Hein. 30 000 soldats d'élite vont chercher l'arche. Vous imaginez le truc quand même, hein ? 30 000, c'est énorme ! C'est énorme. Et donc, c'est une sorte de mobilisation générale. Là, c'est clair, il veut montrer qu'on fait quelque chose d'important ici. Il marque le coup, 30 000 soldats qui vont. Et donc... c'est ce qui va se passer là. Pourquoi c'était encore un convoi exceptionnel ? Parce que eh bien, l'arche de l'Éternel, c'était le lieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, où Dieu communiquait sa volonté à son peuple. Et donc l'arche servait de guide au peuple. On la plaçait généralement devant le convoi. Et donc c'était le grand sacrificateur qui allait dans le sein du saint. Et il était là et Dieu communiquait entre les deux chérubins. Je vais vous montrer une photo juste après. Il communiquait entre les deux chérubins, et donc, dès qu'il avait les consignes, il donnait ça au peuple, et donc le peuple se dirigeait à l'est, à l'ouest, au sud, enfin bref. Et donc, c'était essentiel pour le peuple, surtout dans la période du désert. Alors, comme je vous disais, l'arche, elle mesurait 1,15 m de long. Donc, ça ne fait pas très grand, en fait. Hein. Deux chaises, là, l'une à côté de l'autre. Vous avez à peu près 1 mètre. Et ensuite, 70 cm de large. C'est la hauteur de la chaise. Hein. L'assise, non, c'est plutôt 50, là. Il faudrait mettre 20 cm. Si, mais on va dire que, vous voyez, en dessous des chérubins, vous voyez là, ici, là, de là à là, on est à 50. On va dire que là, il y a à peu près 20 cm. Et puis, 70 cm de large. Mais c'était du bois, ce n'était pas de l'or massif, c'était du bois d'acacia qui était recouvert d'or et des feuilles d'or plaquées sur le bois d'acacia autour. Donc, ça restait du bois, parce que c'est une feuille d'or, ce n'est pas si lourd que ça, mais c'était étincelant. Il n'y a que le couvercle qui était en or massif avec les chérubins. D'accord ? Et donc, les chérubins, c'est les deux anges qui avaient leurs ailes comme ça et qui regardaient au milieu, là où était sacrifié, là où on faisait couler le sang, en fait. Et donc, ils ne regardaient pas Dieu, ils regardaient au sacrifice. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révélait. Et il parlait là, entre les deux chérubins, sa voix, comme une sorte de haut-parleur. Et donc, le sacrificateur entendait la voix de Dieu. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, on ne le voit plus aujourd'hui, ça. La tente se trouvait au milieu du lieu très saint, donc hein, où il y avait plusieurs éléments, le lieu saint et le lieu très saint, derrière un grand voile. Et donc ce lieu était ici. Et une seule personne avait le droit de pénétrer dans cette enceinte, c'était le grand sacrificateur. Mais même les autres sacrificateurs n'étaient pas censés toucher l'arche. Et on a des avertissements dans Lévitique 16, ils n'étaient pas autorisés à le toucher, sous peine de mourir. Et il y en a qui sont morts. Au point qu'on était, on leur attachait une ficelle ou une corde à leurs pieds, et puis s'ils mouraient à l'intérieur, mais on ne rentrait surtout pas dans le lieu saint, on les tirait en fait. Alors donc, l'arche de l'Éternel nécessitait pas un 38 tonnes avec des gyrophares. Hein. C'était vraiment tout petit, une petite caisse en bois recouverte d'or. Et vous voyez, ici, vous avez un dessin avec les quatre sacrificateurs. On ne touchait pas l'arche. C'était une consigne. Même là, les sacrificateurs, vous voyez, ne touchaient pas l'arche. Ils avaient des barres en métal, en recouvert d'or, et ils glissaient ces barres dans des crochets sur les côtés. Vous voyez, ici, là, on voit qu'elle est au milieu, mais ici, là, mince, on y va. Là, on glissait la barre dans ces anneaux ici. Et donc, on ne touchait pas l'arche, sous peine d'être foudroyé. C'était des consignes que Dieu avait données à Moïse. Et donc, il déplaçait l'arche, simplement en faisant glisser, personne ne touchait l'arche, et hop, il déplaçait, et c'était un convoi. Alors, il n'y avait pas que ça, c'est que dans ce convoi, il ne fallait pas la mettre sur un char, mais vous voyez, c'était sur leurs épaules. Et ça, c'était une consigne aussi, qu'on voit dans Nombre, chapitre 7 et verset 9. Pas sur un char, sur les épaules des sacrificateurs qu'ils portaient. Et qui avait le droit, les Lévites qui avaient le droit de porter le coffre, eh bien c'était des Kéatites, ils étaient fils de Kéat. Donc ça c'est Nombre 3, verset 29 à 31. Donc oui, il y avait énormément de consignes, tout le monde ne pouvait pas porter cette arche sous peine d'être foudroyé comme l'a été Ouza. Alors maintenant, on va faire un petit récapitulatif, d'accord ? Je vous ai fait un tableau pour qu'on fasse en fait un comparatif entre les exigences de Dieu par rapport au coffre et la situation d'Ouza. Déjà le personnel. La Bible, elle dit qu'il fallait uniquement des Lévites, des fils de Kéat, alors que ici, Ouza n'est pas un Lévite. Donc déjà là, il n'avait rien à faire ici. Ensuite, il devait y avoir une sanctification de celui qui allait porter, donc il y avait un rituel, et donc il n'y a pas eu de rituel. Ensuite, on devait porter sur les épaules, ici on le porte sur un char, ensuite on devait porter avec des barres sans toucher l'arche, alors que Ouza va retenir avec ses mains. D'accord ? Alors maintenant que vous connaissez les exigences de Dieu claires dans la Bible, et maintenant que vous connaissez la situation d'Ouza, je vous repose les mêmes questions. Est-ce que Ouza était à sa place ? Deuxième question, a-t-il respecté les exigences divines? Non. Méritait-il la mort? Ah, là, j'ai pas eu... Méritait-il la mort? Alors ça, c'est votre loi, hein? On est d'accord, là, vous venez de définir vous-même les règles. Vous n'êtes pas d'accord avec la loi de Dieu? Qui c'est qui a défini les règles au départ de l'arche? C'est un privilège pour l'Israël d'avoir la volonté de Dieu révélée comme ça. En même temps, c'est une responsabilité, hein? C'est Spider-Man qui l'a dit, hein? Privilège égale responsabilité. Privilège, tu as l'arche, tu as la Torah, tu as la loi, tu as la volonté parfaite du Dieu créateur de l'univers. Waouh ! C'est une chose extraordinaire. Mais en même temps, tu as la responsabilité d'obéir. Et là, il avait un peuple à part. Dieu avait préparé son peuple. Et donc, il lui avait donné des consignes. Et il ne les respecte pas. Et donc, il méritait la mort. Et là, maintenant, vous devez faire oui. Parce que c'était les consignes. Tu désobéis, tu es puni. Est-ce que Adam méritait de mourir? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Vous vous souvenez ce que Dieu a dit à Adam? Le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, tu mourras certainement. Il n'est pas mort instantanément, il n'a pas été foudroyé. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais il est mort quelques années plus tard, enfin plus de 900 ans après, mais quand même. Il est mort. C'était tu mourras certainement. Au final, il est mort. Et Dieu a changé après les règles. Hein. On ne dépassera pas 120 ans. Et si vous vous souvenez le message de John la semaine dernière, il nous a dit que la plupart du temps, c'est entre 70 et 80. Ça, c'est la norme. Voyez. Mais Dieu a fixé d'autres limites. Est-ce que Adam méritait la mort? Oui, parce que Dieu l'avait averti. Donc, vous voyez, quand Dieu nous donne un avertissement, qui nous donne un commandement, et que nous, on enfreint ce commandement, on mérite la sanction. Est-ce que vous faites la même chose chez vous? Vous avez des enfants, ceux qui ont des enfants, tiens, je vais vous interroger, parce que les autres, ils ont oublié leur enfance. Quand vous donnez une règle, est-ce que vous l'appliquez? J'en ai... Ça dépend. Chez nous, si on donne une règle et qu'on dit « si tu fais pas ça, il y a une sanction », tu fais pas le ménage, tu n'auras plus de télé ou tu n'auras plus de téléphone. Bon, ce n'est pas une sanction de mort, hein, ça va, c'est tranquille. Mais à votre avis, est-ce qu'on applique la sanction ou pas? Ok, on n'est pas sous l'ancienne alliance, on est d'accord. Si tu regardes la télé après 22 heures, boum, sanction tombe, normal. Si tu ne fais pas tes devoirs, boum, sanction tombe. Et on va ajuster la sanction. Mais quand, moi je suis un humain, imparfait, mais si c'est Dieu qui fixe les règles, si c'est un Dieu saint, trois fois saint, si c'est lui qui fixe les règles, il a le droit de les appliquer. Et c'est pour ça, c'est qu'on est tellement loin en fait de la sainteté de Dieu qu'on trouve ça injuste. Mais c'est parce que, en fait, on a une considération beaucoup trop haute de ce que nous sommes. On a une estime de nous-mêmes qui est tellement grande, les amis. On pense qu'on est presque parfait. Ah oui ? Je vais vous faire une petite liste tout à l'heure, on verra si on mérite nous aussi la condamnation. Cela dit, convoi exceptionnel, mission exceptionnelle, mais aussi jugement exceptionnel. C'est pour ça que ça nous choque. Est-ce que vous avez été choqué par le cas de Akan? Vous vous souvenez, Akan va voler des idoles, il va les planquer sous la tente, et là, c'est toute la famille qui trinque. Vous vous rappelez? Ça vous choque? Moment clé d'Israël. Moment clé. Est-ce que vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Ça vous rappelle quelque chose? Ils ont menti. On ment tous, là, tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais tous les deux jours. On ment tous. Allez, qui a installé une application, là, la semaine dernière? Moi, je suis allé sur un site du Canada hier pour m'inscrire pour mon prochain vol. Il y avait une tartine de 2 pages, texte administratif, et il fallait cocher la case « lu et accepté ». À votre avis, est-ce que j'ai lu tout le truc? C'était juste pour franchir la douane, hein, c'était pas déclaré, c'était vraiment du détail. À votre avis, est-ce que j'ai lu? Et est-ce que j'ai coché la croix? Donc j'ai menti. Vous voyez où je veux en venir? Qui c'est qui a menti parmi vous cette semaine? Qui c'est qui a installé des applications? Je suis pas tout seul. Honnêtement, sur votre téléphone, si on prenait le téléphone de chacun, vous devriez avoir lu toutes les conditions générales. Est-ce que vous l'avez fait? Avant de cocher la croix, j'ai lu et j'accepte. Est-ce que vous l'avez fait? Ok, donc vous êtes tous dans le même sac. Hein. Bienvenue au club. Quand je dis jugement exceptionnel, c'est qu'on a un moment exceptionnel, c'est le début des rois ici. Saül, on ne peut pas vraiment le compter, hein, parce que Saül, il était sans justement les conseils de l'Éternel. Et on a vu ce qui s'est passé. C'était catastrophique, catastrophique. David arrive, il va remettre les choses en place. Et donc, vous voyez, là, c'est l'apparition des rois. Et le roi David, c'est celui qui va donner le pli pour la suite. Et donc, on va trouver notre réponse. Quand je dis jugement exceptionnel, c'est exactement comme dans le cas d'Ananias et Saphira, où on est au début de l'Église. Et si vous vous souvenez de ce message que j'ai prêché dans Actes chapitre 5, quel était le résultat de ce jugement? Le peuple se mit à craindre l'Éternel et l'Église grandit. Donc vous voyez, les conséquences d'un jugement d'une personne a une conséquence sur l'ensemble du peuple. Pas de chance pour Uzza, il est tombé au mauvais moment. Il aurait fait ça une semaine avant, il n'aurait peut-être rien eu. Mais là, il est tombé au moment où on devait montrer un exemple, comme avec Ananias et Saphira. On ne rigole pas avec la vérité. D'accord? Allez, lisons ensemble 1 Chronique 15. Versets 13 à 15. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous n'avons pas cherché l'arche selon les règles. Vous voyez, David, la réponse était déjà dans la Bible. Hein. Vous êtes choqués, mais c'est parce que vous n'avez pas lu 1 Chronique. Il faut tout lire. 1 Chronique 15, c'était déjà dans la Bible. Car nous n'avons pas cherché l'arche selon les règles. Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et on ne va pas lire la suite, mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé juste après? Est-ce que ceux qui ont porté l'arche ont été foudroyés? Absolument pas. Il ne s'est rien passé parce qu'ils ont respecter les règles. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas pris Uzza par surprise. Il avait clairement averti les Israélites que ceux qui ne respecteraient pas les conditions seraient punis de mort. J'aime cette réflexion de Don Carson à propos justement de ce texte. Il dit « Aucun débordement d'enthousiasme ou de zèle » et c'était le cas. Ils étaient, ouais, on revient à Jérusalem, on va chercher l'arche, c'est génial. Ah oui, sauf que t'as oublié les petites consignes là. Aucun débordement d'enthousiasme ou de zèle ne compensera jamais le manque d'obéissance ou de négligence. Le zèle mal orienté n'atteint jamais son but. Il doit être canalisé et orienté dans la direction prescrite dans la parole de Dieu. Sinon, malgré tout l'enthousiasme dont il se part, il va dans la mauvaise direction et s'égare. Rien ne peut remplacer la foi qui agit dans l'obéissance bien informée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Parce que c'est fondamental, les amis. Hein. Moi, j'entends trop souvent « Ah oui, mais il était sincère !» Ah ben oui. C'est super la sincérité, et il faut de la sincérité, de l'enthousiasme. Dieu nous le demande, mais il nous demande aussi de la vérité et de l'obéissance. L'un va avec l'autre. Vous vous souvenez le triptyque que je dis régulièrement? Orthodoxie, orthopraxie, orthopathie. Avoir une doctrine juste, une connaissance juste, ok? Avoir une pratique juste et avoir des motivations justes. Mais c'est les trois qui forment un disciple. Ce n'est pas simplement le fait d'être sincère, d'avoir bien agi. Vous voyez, ils n'ont pas respecté les consignes. Il n'y avait plus d'orthodoxie ici. Ah, le cœur était là, mais on a oublié la Bible. Ouf. Et là, Dieu dit, stop ! J'espère que vous allez écouter maintenant. Ce n'est pas simplement le zèle, mais aussi l'obéissance. Alors Ouzaï, il a payé le prix fort, hein. Comme Acan, comme Ananias et Saphira. Il n'était pas là au bon moment, au bon jour. Ça aurait très bien pu nous arriver. Mais dans ce cas, moi, je vois une forme, une sorte de symbole. Parce qu'en réalité, la mort, elle devrait tous nous frapper à chaque fois qu'on désobéit à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? En fait, on a souvent une estime de nous trop haute. On croit qu'on n'est pas si pécheur que cela. On n'est pas des meurtriers, on n'est pas des terroristes, on n'est pas des violeurs, on n'est pas... Vous voyez ? On se considère toujours par rapport à plus grave que soi, parce que finalement, c'est nous le référentiel. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on se surestime, on sous-estime la sainteté de Dieu. Et donc, du coup, on n'est pas si pécheur que ça. Mais si ! Si on est pécheur, les amis. Et celle-là, elle va s'instagrammer, je vous la mets sous les yeux. Si nous ne mourons pas à chaque fois que nous péchons, ce n'est pas parce que nous sommes saints, mais parce que Dieu est miséricordieux. Retenez ça, les amis. Si nous ne mourons pas à chaque fois que nous péchons, ce n'est pas parce que nous sommes saints, mais parce que Dieu est miséricordieux. On a un Dieu de grâce, les amis, de miséricorde. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. La grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Une fessée. Dieu ne nous frappe pas à chaque fois que nous le méritons. Il use de miséricorde. Le problème est que nous nous habituons à cette miséricorde et qu'à terme, nous ne réalisons plus la gravité du péché. C'est ça le problème. On s'y habitue à la miséricorde et on aime ça. Et donc, du coup, on se complaît dans notre péché. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est parfois obligé de frapper fort. Là, il a un peu joué le rôle de fusible, Ouza. Hein ? Il a sauté pour permettre à tout le peuple de rester en vie, en fait. C'est lui le fusible dans la situation. C'est grâce à Ouza que tout le peuple n'a pas été frappé, parce que tous ceux qui ont enfreint les règles à ce moment-là auraient aussi dû mériter la mort. Ceux qui portaient l'arche. En fait, il n'y avait personne qui portait l'arche, mais celui qui conduisait le char, il aurait dû être frappé aussi. Bon, là, la consigne de toucher l'arche était très claire. On ne touche pas. Et là, t'as touché et t'es mort. Heureusement, mes amis, que Dieu n'intervient pas tout le temps comme ceci. Mais il aurait le droit de le faire. Où est-ce qu'on trouve ce verset ? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est dans quel livre ? C'est dans l'Ancien Testament ? Vous êtes des chrétiens du Nouveau Testament, n'est-ce pas ? Romains 6, 23. Heureusement, Richard connaît le verset par cœur. Il faudrait les mémoriser, ces versets, hein ? Parce que c'est important quand même. C'est bien dans le Nouveau Testament qu'on trouve ce verset. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, mais... Quand j'ai lu le verset, quand j'étais avec ce texte, je me suis dit, waouh, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais à quel point je suis pécheur ? Et je ne me rends plus compte. À quel point j'use de grâce et à quel point Dieu use de grâce et de miséricorde envers nous. Moi, je vous pose la question, combien de fois auriez-vous mérité la mort cette semaine ? Combien de fois n'avez-vous pas respecté les exigences divines ? Là, vous êtes assis, tranquille, c'est chill. Hein. Là, je vais vous poser une liste de questions, on va voir si vous pouvez répondre oui ou non à chaque fois. Avez-vous aimé Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toutes vos forces ? Ça pique, là, déjà. La même pour votre prochain. Prochain, proche, proche, épouse, époux, collègue, voisin, ceux que vous côtoyez, quoi. Avez-vous consacré la plupart de vos pensées, de votre temps à Dieu ou à une autre activité ? Soyez honnête avec vous-même. Si vous répondez non, vous méritez la mort. Avez-vous caché la vérité à quelqu'un ? Avez-vous légèrement modifié la réalité lors d'une conversation ? Si oui, vous méritez la mort. Avez-vous volé quelqu'un cette semaine ? Avez-vous mis l'argent suffisant dans le rodateur ? Avez-vous volé la réputation de quelqu'un en cassant du sucre sur son dos? Avez-vous volé votre patron en squattant plus la machine à café que votre ordinateur? Si oui, vous méritez la mort. Avez-vous prié et béni ceux qui vous maltraitent ou vous font souffrir? Avez-vous encouragé et pris soin de vos frères et sœurs comme vous le devriez? Et cette semaine, vous savez, il y avait des opportunités pour prier pour ceux qui sont plus fragiles que nous. La petite Noémie. D'ailleurs, on a une pensée pour eux ce matin qui ne sont pas avec nous. Avez-vous honoré vos parents? Avez-vous été généreux avec ceux qui sont moins riches que vous? Sinon, vous méritez quoi? La mort. Est-ce que toutes les paroles qui sont sorties de votre bouche étaient édifiantes et communiquaient une grâce à ceux qui l'écoutent? Avez-vous fait tout le bien que vous étiez en mesure de faire autour de vous? Sinon, vous méritez quoi? La mort. Qui dans cette salle est sans péché? Ça fait rire Richard, hein? Vous pouvez rigoler, mais ça ne me fait pas rire, moi. Enfin, un petit peu quand même, mais c'est la grâce, les amis. C'est la grâce. On mérite tous de mourir parce qu'on désobéit chaque jour à la loi de Dieu, et même plusieurs fois par jour. Si on est en vie aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est saint, mais c'est parce que Dieu est miséricordieux. On ne mérite pas de vivre. On enfreint constamment la loi. Et quel est notre droit sur la vie, en fait? Qu'est-ce qu'on peut exiger, nous? Qui nous sommes? Imaginez une personne qui dirait « Seigneur, à partir d'aujourd'hui, et comme je suis ton enfant, je mérite d'être en bonne santé chaque jour jusqu'à mes 85 ans. Ensuite, j'exige d'avoir un travail et un salaire décent qui me permettent de vivre aisément, de partir en vacances aux quatre coins du monde, de faire plein d'activités. Enfin, j'aimerais que tu répondes à toutes mes requêtes et si possible, avec plus de rapidité. » Vous imaginez quelqu'un comme ça? Ça vous choquerait, n'est-ce pas? Ben, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on juge les sentences de Dieu. C'est exactement ce qu'on fait. C'est comme si on lui dictait sa conduite, ce qu'il doit faire ou pas faire avec nous. Tu es méchant, Dieu, d'avoir jugé Uzza, vous voyez? C'est exactement ce qu'on fait. En jugeant les faits et gestes de Dieu, on prend sa place. Pire, on se place au-dessus de lui. Mais qui tu es? Qui tu es pour juger Dieu? Allez, je vais conclure. Et là, c'était tellement beau que je suis resté dans mon exceptionnel. Ma conclusion, c'est une grâce exceptionnelle. Une grâce exceptionnelle. Et on va lire ce texte que vous connaissez, qui est une parabole que Jésus raconte. Vous la connaissez. Elle m'a vraiment interpellé, cette parabole, et elle me parle régulièrement. Il dit encore cette parabole pour certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et qui méprisaient les autres. Ça ne nous concerne absolument pas. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre péager. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont accapareurs, injustes, adultères ou même... comme ce péager. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le péager se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait à la poitrine et disait « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans la maison, dans sa maison, justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Jésus, il préfère qui là dans l'histoire? Ceux qui pêchent moins, mais qui s'en vantent? Ou ceux qui reconnaissent qui ne sont pas à la hauteur? Vous connaissez la première béatitude? Heureux les... pas les simples d'esprit. Non. Heureux les pauvres d'esprit. Heureux les mendiants, en fait. Heureux ceux qui reconnaissent leur petitesse devant Dieu. Ceux qui n'ont rien, qui sont spirituellement, ils n'ont rien apporté à Dieu, en fait. On est des mendiants, les amis. on est des mendiants et on devrait être des mendiants si ce n'est pas encore le cas. Jésus, il n'est pas venu pour sauver des bien portants, mais des mendiants, des gens qui n'ont rien, qui ont les mains vides, qui ont besoin de béquilles. Dieu est venu pour sauver des malades spirituels, pas des gens qui se croient en bonne santé, qui se croient au-dessus des autres. Non, Jésus est venu justifier des péagers comme cet homme, c'est-à-dire un mendiant spirituel, quelqu'un de conscient de sa condition misérable devant Dieu, plutôt que des religieux qui font semblant que tout va bien, mais qui en réalité n'aiment ni Jésus, ni les gens qui les entourent. Alors mes amis, ne pointons pas trop vite notre index en direction des gens moins bien que nous en apparence. Bah, d'une part, quand tu fais ça, il y a trois doigts qui te regardent, hein. Mais on est fait de la même pâte qu'eux en fait. La seule différence entre eux et nous est que nous, on a été rachetés, on a été lavés, on a été purifiés, on a été déclarés justes par la grâce d'un Dieu miséricordieux. C'est la seule différence entre nous et eux. On mérite la mort autant qu'eux, mais Dieu nous a offert sa vie. Il nous a donné son Fils pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Mes amis, mais quelle grâce ! Est-ce que vous prenez conscience de ça ce matin ? Vous êtes en vie par la pure grâce et miséricorde de Dieu. On ne va pas prier qu'on soit à un moment exceptionnel de l'Église, même si ça peut être le cas, parce qu'il arrive des choses exceptionnelles à des moments exceptionnels. Et heureusement que ça reste exceptionnel. Donc si vous voulez être exceptionnel, vous avez intérêt à avoir un cœur bien placé, mais à être obéissant aussi, et à avoir une doctrine juste. Orthodoxie, orthopraxie, orthopathie. Et ça, ce n'est pas simplement lorsqu'on se convertit, hein. Vous savez, il y a des hommes qui restent comme ça toute leur vie, et il faudrait qu'on reste comme ça toute notre vie. Parce qu'au bout de 20 ans de vie chrétienne, on peut se dire « Ah, moi je suis arrivé ». Vous savez ce que disait Augustin ?« Seigneur, sauve-moi de cet être vil, moi-même. Sauve-moi de moi-même. Je suis mon pire ennemi. » John Knox, connu à Genève, John Knox. C'est grâce à lui que des Écossais ont connu l'Évangile. C'est passé par Genève. Dans ma jeunesse, dans mes années d'adulte et maintenant, après bien des combats, je ne trouve rien d'autre que de la corruption. Un gars qui a participé au réveil en Écosse. John Wesley, encore un autre revivaliste. Je suis bien loin de la gloire de Dieu. Mon cœur entier est totalement corrompu et abominable. Et conséquemment, puisque ma vie entière n'est qu'un mauvais arbre, je ne peux manifester de bons fruits. Ça, ce sont des hommes de Dieu que Dieu a utilisés, pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce qu'ils étaient conscients de leurs faiblesses et qu'ils les reconnaissaient. Est-ce que vous voulez être un homme de Dieu ou une femme de Dieu comme eux ? Ah ben on va prier pour ça. Moi, je veux être un homme comme ça. Et pas vous dire, faites comme Franck. N'allez pas cocher hein, maintenant en vous disant, ah, le pasteur, il a fait, j'ai lu, j'accepte. Essayez de le lire. Ou sinon, vous lisez à ma place et puis vous me faites un résumé.